Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Joséphine Baker symbolise tout ce qu'on aime, le multiculturalisme, la grâce, l'élégance, des mots de Pierre Canutti. L'ancien conseiller régional socialiste sera l'un de nos invités au lendemain de l'entrée au Panthéon de la chanteuse et résistante française. L'impact du variant Omicron dans le monde, exemple au Maroc, avec la suspension du trafic aérien avec la France et la suspension de tous les vols directs passagers à destination du Royaume. Nous y reviendrons avec le journaliste et universitaire marocain Omar Brooksy. La tempête qui a frappé lundi et mardi la région de Marmara dans le nord-ouest de la Turquie a fait 5 morts et 63 blessés. Un naufrage hier soir au Nigeria, au moins 29 personnes sont mortes, dont une majorité d'enfants. La journée mondiale de lutte contre le sida, 40 ans après le début de l'épidémie, 38 millions de personnes sont infectées dans le monde par le VIH. La France a fait un grand pas vers la Coupe du Monde féminine 2023 en Océanie. Les joueuses ont battu à Guingamp leur plus sérieuse rivale. La Coupe arabe de la FIFA, l'Algérie a battu le Soudan ce mercredi, 4-0 pour son premier match dans cette compétition. L'entrée au Panthéon hier de Joséphine Baker, elle est intervenue le jour anniversaire de l'acquisition par l'artiste et résistante de la nationalité française en 1937. Entretien avec Pierre Canutti, ancien conseiller régional socialiste.
Joséphine Baker était déjà rentrée dans le Panthéon des Français, dans leur cœur depuis très très longtemps. Bon, c'est tout un symbole. Vous savez, moi je suis martiniquais et donc jusqu'à elle, Joséphine, c'était pas un prénom... positif parce que c'était le prénom de l'impératrice des Français née en Martinique mais qui avait inspiré le rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon. Mais Joséphine Baker symbolise tout ce qu'on aime. Bon, la beauté, le multiculturalisme, la grâce, l'élégance, le rire et puis le combat, des combats essentiels. Alors, je crois aussi qu'il faut que dans la panthéonisation de Joséphine Baker, on salue tout ce qu'elle a été. Et qu'on prenne tout ce qu'elle a été, et pas simplement la légende dorée ou quelque chose qui nous arrange. Parce que Joséphine Baker a mené beaucoup de combats. Le combat contre la ségrégation et le racisme aux États-Unis, le combat contre l'oppression du tiers-monde, puisqu'elle a même été soutenir des rassemblements à Cuba. Et José, une petite provocation. Dans les combats de Joséphine Baker, certaines de ses prises de position aurait été qualifié de woke aujourd'hui par certaines personnes aujourd'hui qui pensent que il ne faut pas éveiller les consciences. Bon, ce que veut dire le mot woke. Mais de façon plus sérieuse et plus importante, elle n'opposait pas dans son universalisme aussi l'exigence de justice. Et vous savez, l'antiracisme, le fait d'être contre le racisme ne suffit pas. Il ne faut pas simplement se contenter de posture morale en disant le racisme c'est mal, il faut s'engager contre le racisme. Et Joséphine Baker, quand on revisite sa vie, ben on voit qu'elle ne s'est pas drapée dans une posture morale, elle a combattu dans des combats qui étaient difficiles. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis, c'est pas simplement marcher avec Martin Luther King, c'est quand même marcher sous la menace des coups de bâton et des chiens, c'est ne pas riposter à des actes violents. On oublie combien de militants sont morts, ont été torturés parce qu'ils luttaient pour l'égalité des droits et notamment pour le droit de vote. Elle était très sensible à la question de l'antisémitisme et je repense toujours à cette phrase de Frantz Fanon dont on célébrera dans quelques jours le 60e anniversaire de la disparition, qui rappelait ce que son prof lui avait dit, attention quand on commence à parler des juifs, tendez l'oreille, on parle de vous, c'est-à-dire que dans les luttes contre le racisme et l'antisémitisme, en fait, on ne peut pas combattre contre l'un sans combattre contre l'autre. Donc je pense que c'est aussi ça. Il y a évidemment la femme résistante, et ça c'est très beau, qu'elle ait choisi de s'engager dans la résistance. Et donc la question qui nous est posée, c'est pas simplement « Joséphine Baker entre au Panthéon et on ira de temps en temps se recueillir sur sa tombe », c'est qu'est-ce qu'au quotidien, là où nous sommes, nous faisons dans cet héritage-là. Je pense qu'aujourd'hui, Joséphine Baker, elle prendrait fait et cause pour les réfugiés et pour les migrants. Elle demanderait plus d'ouverture, plus de générosité. Et d'une formule, là où Éric Zemmour veut construire des murs avec des barbelés et avec des miradors, je pense que Joséphine Baker est celle qui veut construire des ponts, des passerelles et ouvrir des portes. Et je pense que c'est cette France-là qu'on aime. Donc il faut honorer cette femme en maintenant vivant ses engagements et ses combats. Et vous savez, dans le judaïsme ancien, il y avait une formule sur le combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Et je pense qu'on est en plein là-dedans. Éric Zemmour, c'est l'ombre, c'est les ténèbres, c'est la cendre, et Josephine Baker, c'est la lumière, c'est la flamme, c'est la beauté, c'est ce qui illumine le monde. Nos compatriotes de confession juive fêtent en ce moment une fête, justement, qui est celle de lumière, et des lampes qui ne s'éteignent pas de façon miraculeuse et qui font triompher la liberté. Je pense que c'est vraiment ça qui, de façon laïque et républicaine, doit nous intéresser. C'est que Josephine Baker, c'est l'ouverture, c'est le rapport à l'autre, le souci de l'autre. Moi, je suis très heureux que le président Macron ait fait ce choix-là, mais pour que ce choix soit sincère et pas simplement d'opportunité, chaque président essaye de se placer dans la grande histoire avec ce type d'honneur, bien, il serait bien que ça soit appliqué dans les politiques publiques. Et puisqu'on en est à parler de Panthéon, c'est un peu hors sujet, mais pas tant que ça, c'est que je pense aussi qu'il y a une réflexion à ouvrir sur l'entrée de Gaston Monnerville au Panthéon, parce que c'était un contemporain de Josephine Baker, lui aussi résistant, lui aussi issu des Antilles, parce qu'elle avait des origines martiniquaises. Il est décédé il y a 30 ans, et donc je pense que c'est des combats comme ça qui nous inspirent.
On l'entend, hein, vous plaidez aujourd'hui pour l'entrée au Panthéon de Gaston Monnerville.
Oui.
Cet homme qui a été député de la Guyane, également secrétaire d'État aux colonies, et puis président du Conseil de la République. C'était de 1947 à 1958.
Exactement, exactement. Il a été député aussi du Lot, longtemps résident à Paris, président donc de la Haute Assemblée, du Sénat. Il y a une salle à son nom au Sénat, il y a une place à son nom à côté du jardin du Luxembourg, et je pense qu'il a sa place lui aussi. Alors, Josephine Baker aussi entre dans l'histoire, parce que c'est la première femme noire à entrer au Panthéon, et c'est aussi une avancée importante. On a aux Antilles une expression créole qui qualifie les femmes en parlant de potomitan, donc espèce de poutre centrale qui fait tenir la famille, la société. Et c'est quelque chose aussi qui est important, c'est que ce sont des éléments de stabilité, ce sont des éléments de transmission, d'éducation.
Pierre Canuti, ancien conseiller régional socialiste. Un naufrage hier soir au Nigeria, au moins 29 personnes sont mortes, dont une majorité d'enfants. Le bateau était surchargé, c'est arrivé dans le nord du pays. 13 personnes restent portées disparues. L'embarcation transportait des élèves de l'école coranique du village de Bado et était en chemin pour assister à une cérémonie religieuse. La tempête qui a frappé lundi et mardi la région de Marmara dans le nord-ouest de la Turquie a fait 5 morts et 63 blessés. Une annonce du ministre turc de la Santé. Les vents qui ont atteint 130 km/h ont soufflé les toits et provoqué l'effondrement de minarets et de tours d'horloge dans plusieurs villes de la région de Marmara, dont Istanbul. La présidentielle prévue le 24 décembre prochain en Libye, la cour d'appel de Tripoli rejette deux recours contestant la candidature du chef du gouvernement intérimaire libyen, Abdelhamid Dbeiba, des recours déposés dimanche dernier par d'autres candidats à ces scrutins, parmi lesquels l'ex-ministre de l'Intérieur, Fatih Bachara. Face à la menace du nouveau variant Omicron du coronavirus, le Canada a interdit l'entrée sur son sol aux voyageurs en provenance d'Égypte, du Nigeria et du Malawi. Cela porte à 10 le nombre de pays d'Afrique bannis par Ottawa. En Tunisie, les voyageurs non résidents et non vaccinés sont interdits d'accès au territoire tunisien. Les voyageurs vaccinés de plus de 18 ans doivent présenter un schéma vaccinal contre le Covid-19 complet. Tous les voyageurs de plus de 6 ans qui se rendent en Tunisie doivent présenter un test PCR négatif à la Covid-19, un test réalisé moins de 48 heures avant le premier embarquement. Le Maroc a suspendu le trafic aérien avec la France et suspendu tous les vols directs passagers à destination du Royaume. Nous y revenons avec le journaliste et universitaire marocain Omar Brooksi.
Il y a deux grandes mesures importantes. La première, c'est le fait qu'il n'y ait plus de vols en direction et en provenance de la France jusqu'à nouvel ordre, selon le communiqué. Et la deuxième mesure, c'est le fait que les aéroports marocains sont fermés à tous les vols pendant 15 jours, du 29 novembre jusqu'au 15 ou 14 décembre. Donc évidemment, ces décisions interviennent après l'évolution de la pandémie. Les Marocains ont pris ces deux mesures avec une certaine fatalité parce que ils sont conscients des risques que l'évolution de la pandémie est en train de prendre de jour en jour. et notamment en Europe. Les catégories qui sont le plus inquiétées, si vous voulez, ce sont surtout les acteurs du tourisme marocain, et notamment à Marrakech, à quelques jours des fêtes, c'est-à-dire à un mois des fêtes de fin d'année, et notamment par rapport à la décision prise vis-à-vis de la France, notamment à Marrakech surtout. La principale clientèle du tourisme marocain à Marrakech est française. Et ça, ce sont les chiffres qui le disent. Beaucoup de Français préfèrent passer les fêtes de fin d'année à Marrakech pour les raisons que vous connaissez, la beauté du site, la clémence des températures, etc., le soleil. Donc, ce sont surtout les acteurs du tourisme, les patrons d'hôtels, les patrons d'agences, de voyages, les commerçants des bazars, surtout à Marrakech, surtout. Il y a un espoir puisqu'ils se disent que peut-être que la situation sera rétablie à partir du 15 décembre. Mais bon, pour l'instant, la majorité des Marocains sont en situation d'attente pour voir comment les choses vont évoluer.
Vous nous dites que la crainte aujourd'hui est principalement exprimée par le secteur du tourisme et l'impact économique que cela va avoir.
Exactement, parce que à cause de la pandémie, pendant ces deux dernières années, le tourisme marocain a beaucoup souffert, notamment dans une ville comme Marrakech, qui s'appuie essentiellement sur cette activité. Et donc, tout le monde attendait cette année, les fêtes de fin d'année, pour un peu essayer de colmater les pertes des années précédentes. Donc, pour l'instant, évidemment, la majorité des personnes avec lesquelles j'ai pu discuter, ils étaient un peu inquiets, mais bon, il reste quand même l'espoir d'une évolution positive de la pandémie et d'une réouverture des aéroports. Il faut savoir, selon les dernières informations, que tous les hôtels sont pleins. Tous les hôtels à Marrakech, hein, tous. Les réservations ont concerné la quasi-totalité des hôtels. C'est dire combien les fêtes de fin d'année étaient attendues. Maintenant, est-ce qu'il y aura une réouverture du ciel? Tout dépendra de l'évolution de la pandémie. Les responsables officiels disent que c'est pour préserver les acquis, et effectivement, les chiffres le montrent.
C'est ce fameux pass vaccinal qui est une réussite au Maroc, qui a prouvé son efficacité?
Évidemment, les chiffres semblent le montrer. Les chiffres semblent le montrer, même si maintenant on met l'accent de plus en plus sur la troisième dose. Évidemment, les chiffres semblent en tout cas indiquer que il y a des résultats qui ne sont pas négatifs, je dirais. C'est des résultats positifs par rapport à d'autres pays de la région, et même par rapport à certains pays européens comme la France notamment. Donc évidemment, ces décisions rentrent dans ce cadre-là, dans le cadre de la préservation de ces bons résultats et même du renforcement des résultats positifs de ces derniers mois. Donc oui, nous attendons comment les choses vont évoluer. C'est ça l'état d'esprit ambiant ici au Maroc.
Des vols spéciaux ont été mis en place pour les personnes qui étaient bloquées au Maroc. Toutes les personnes qui ont souhaité rentrer en France ont pu le faire grâce à ces vols spéciaux, ou alors reste-t-il des personnes aujourd'hui bloquées au Maroc?
Non, nous ne sommes pas face à une situation de blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a des vols qui sont prévus pour les citoyens français, qui résident en France, et notamment les citoyens français. Mais la majorité des personnes qui étaient, que ce soit des Français ou des Franco-Marocains ou des Marocains résidant à l'étranger, qui se sont retrouvés à la veille de cette décision, ont opté pour la Belgique notamment, parce que la Belgique n'était pas concernée, sauf après la décision concernant la fermeture carrément des aéroports. Donc, quand la décision prise par rapport à la France a été prise, la majorité des personnes ont opté pour la Belgique. Maintenant, il y a des vols spéciaux qui sont prévus pour le rapatriement des résidents, notamment français, et pour, bien sûr, les Français qui sont bloqués ici au Maroc. On n'assiste pas à la panique des premiers jours de la pandémie. Il y a quand même une certaine expérience acquise, Il y a une certaine sérénité qui prévaut ici au Maroc et beaucoup de vols spéciaux sont prévus.
Le journaliste et universitaire marocain Omar Brooksy. Cette annonce du gouvernement français, les vols avec 10 pays de l'Afrique australe reprendront à partir de samedi avec un encadrement drastique qui ne permettra de voyager qu'aux Français, aux ressortissants de l'Union européenne, aux diplomates et aux navigants. Les voyageurs subiront un test de dépistage du Covid-19 à leur arrivée en France, suivi d'un isolement de 7 jours en cas de résultat négatif et de 10 jours si le résultat est positif. La Coupe arabe de la FIFA, l'Algérie a battu le Soudan 4-0 pour son premier match dans cette compétition. Une rencontre au stade Ahmad Ben Ali au Qatar. Les Verts ont ouvert le score dès la 11e minute. Lors de la deuxième journée prévue samedi, l'Algérie affrontera le Liban au stade Al-Janoub à 14h, alors que le Soudan jouera face à l'Égypte à 17h. La France a fait un grand pas vers la Coupe du Monde féminine 2023 en Océanie. Les joueuses ont battu à Guingamp leur plus sérieuse rivale. Une victoire 2-0 face au Pays de Galles. C'était leur dernier match de l'année dans le cadre des éliminatoires. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. 40 ans après le début de l'épidémie, 38 millions de personnes sont infectées dans le monde par le VIH. En 2020, près de 680 000 personnes sont décédées des suites du sida. Les acteurs internationaux et nationaux poursuivent leurs actions pour améliorer la prévention, le dépistage et les traitements, mais avec de profondes inégalités géographiques, certaines régions du monde comme l'Afrique sont particulièrement impactées. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Guillaume Roubaud-Kouachi, membre de la direction du PCF, porte-parole de la campagne présidentielle de Fabien Roussel, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.